Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Diversité et Inclusion en Entreprise. Je suis Adrien Figula-Lotor, cofondateur d'AFL Diversity. Notre mission, aider les entreprises à être plus inclusives. L'une des solutions que nous avons trouvées pour faire avancer le sujet, c'est le partage. Le partage des bonnes pratiques, des conseils, des difficultés rencontrées aussi, pour permettre aux autres, à celles et ceux qui ont envie d'agir, de trouver des solutions concrètes pour faire avancer le sujet dans leur entreprise. Le partage, mais aussi la mise en lumière de ce que font les organisations partout en France, quel que soit le secteur d'activité ou la taille de l'entreprise. Et pour cela, nous avons créé le Grand Prix Diversité et Inclusion. La première édition a eu lieu en 2022. Je vous propose de partir dans ce podcast à la rencontre des lauréats de ce premier Grand Prix pour qu'ils nous expliquent comment ils agissent concrètement pour une société plus inclusive. Bonne écoute! Je reçois aujourd'hui Stéphane Balaire, avocat of counsel chez De Gaulle Florence et Avocat et notaire et délégué général de l'association Droit Commun H que tu as créée. Bonjour Stéphane.
Bonjour Adrien.
Alors je suis ravi de te recevoir sur cet épisode. Est-ce que tu peux te présenter déjà s'il te plaît, ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui ?
Merci beaucoup de m'accueillir. Donc j'ai rejoint De Gaulle Florence, avocats et notaires, il y a maintenant 3 ans pour prendre en charge les questions de développement, de stratégie, de conversion digitale de nos clients comme de cette très belle maison qui est française mais avec une grosse ouverture internationale. Et avant, j'étais pendant 32 ans chez Ernst & Young où pendant 20 ans, j'étais associé d'EY, société d'avocats, toujours en charge du développement, de l'éducation et des programmes de sourcing du cabinet qui comportait 750 avocats.
Alors, je crois que tu as un engagement un peu particulier par rapport aux autres avocats au cabinet d'avocats. Est-ce que tu peux nous en parler ? Vous faites partie des heureux lauréats du Grand Prix Diversité et Inclusion 2022 dans la catégorie handicap. Félicitations encore une fois. Le jury a vraiment adoré votre association et votre projet. Est-ce que tu peux nous parler de Droit Commun H ? Peut-être revenir pour commencer aux origines du projet. Pourquoi avoir créé cette association Droit Commun H ?
Alors, c'était un grand honneur de monter sur scène avec en plus une des étudiantes du programme et de pouvoir recevoir ce prix et reconnaître cet engagement. Alors, les avocats ont l'habitude d'être engagés pour des causes qui sont plus souvent aux alentours des libertés publiques, de la défense des personnes en difficulté. C'est vrai que moi, je n'ai pas vu et je n'ai pas été confronté au handicap pendant très longtemps. Et en fait, j'ai découvert cette question chez EY Société d'Avocats pour une question au départ, je l'avoue, financière, puisque nous avions 350 avocats salariés. Et lorsque vous avez plus de 20 salariés dans une organisation, vous avez une obligation d'emploi de 6% de vos salariés. Et donc, j'avais 24 avocats en situation de handicap à trouver, des avocats spécialisés en droit des affaires, en fiscalité, en droit social, pour accompagner plutôt des entreprises d'une certaine importance. Et j'ai constaté d'abord que j'avais travaillé avec des collaborateurs en situation de handicap sans m'en apercevoir, tout simplement. Je les avais trouvés performants. Et après, je m'étais adapté naturellement à leur handicap. Mais visiblement, ça avait l'air d'être un petit peu compliqué pour mes associés qui ont réagi, et il n'y a aucune honte à cela, en pensant plus handicap et sous-performance, en pensant plus au téléthon, aux affichages visibles que l'on voit dans la société de fauteuils. La deuxième chose, c'est que je me suis dit que je pouvais aller un petit peu plus loin, qu'il y avait très certainement des jeunes qui avaient du mal à trouver la porte d'entrée et à convaincre mes associés de les recruter. Et là, j'ai découvert que le handicap, alors je vais vous faire sourire, mais à 80% invisible, faisait que si on était bon à l'université, ce que l'on recherchait comme profil, eh bien, à ce moment-là, on allait se cacher, on allait peut-être vivre en souffrance, en cachant son handicap. Et donc, c'était essayer de comprendre comment est-ce qu'on pouvait essayer de faciliter tout ça, comment le parcours que j'avais eu, qui était celui d'une personne qui avait eu la chance de ne pas avoir été exposée au handicap, pouvait être partagé avec un petit plus. C'est là une histoire personnelle, une jeune Coréenne que j'avais coachée dans le cadre d'un concours de fiscalité internationale. Nous faisions des footings ensemble dans les faubourgs d'Amsterdam à 6h30 du matin, au mois de novembre, et 6 mois plus tard, elle m'appelait. Elle avait été victime d'un accident de la route. Elle était à Séoul, et c'est vrai que déjà, lorsque vous êtes valide avec une bonne performance et que vous êtes une femme en Corée, votre avenir est assez compliqué. Quand vous êtes en fauteuil, c'est encore plus difficile, et c'est le chemin que l'on a fait ensemble depuis 7 ans maintenant, et que je vais avoir le plaisir de célébrer. J'espère vous accueillir le jeudi 23 mars prochain chez les amis de Linklaters pour rencontrer Chiae Chang, grâce à laquelle cette association est née, puisque c'est le parcours que l'on a fait ensemble qui m'a permis, au-delà de ma compréhension et mon intérêt pour l'impact de management que pouvait avoir le handicap dans un cabinet d'avocat, on reviendra certainement sur cette question, mais c'est aussi la facilité, le fait de pouvoir simplement mettre à l'aise, mais aussi convaincre tout un tas de personnes qui croyaient que performance et handicap n'étaient pas compatibles, et puis convaincre aussi les jeunes de se révéler, de faire ce qu'on appelle dans un podcast que l'on a lancé, le coming ash out, pour arriver à assumer cette situation et surtout montrer toutes les capacités qui ont pu être développées par des personnes en situation de handicap et que j'ai appris à connaître.
Alors, parle-nous de Droit comme H. Quelle est la mission de Droit comme H? Quel est son fonctionnement et quelles sont finalement vos actions?
Alors, la mission de Droit comme H, c'est d'accompagner les jeunes talents en situation de handicap vers les professions du droit. Alors, ça commence en deuxième année de licence. On commence à approcher les jeunes avec, dans les amphithéâtres, quelques relais, des H ambassadeurs dont nous parlons tout à l'heure. Et l'idée, c'est de vraiment pouvoir aider les jeunes à choisir, à la fois, comme l'a fait cette jeune Coréenne, par des expériences professionnelles, donc des stages que l'on a pu aménager avec des cabinets d'avocats ou des juristes d'entreprise, des directions juridiques d'entreprise, parce que c'est ma clientèle naturelle pour les juristes d'entreprise de grands groupes et les cabinets d'avocats d'affaires, parce que c'est ce que je connais dans le moins mal dans ma carrière professionnelle. C'est comment est-ce qu'on peut faire une place dans les cabinets et les accompagner à être plus performants pour accueillir ces personnes en situation de handicap, avec une véritable question de management sur laquelle je vais revenir. Et la deuxième chose, c'est de détecter des talents qui doivent passer en tri CV de la même manière que feraient des jeunes qui sont recrutés par les cabinets ou les directions juridiques. Ça, c'est le premier élément. Et deuxième élément, qui sont préparés, notamment avec un niveau d'anglais, avec un niveau juridique, au niveau d'exigences qui sont demandées par ces cabinets. Alors, l'association a quatre piliers sur lesquels repose sa stratégie. Le premier, c'est donc de trouver ces jeunes talents, à Paris comme en région, d'avoir des jeunes qui ont des têtes bien faites, qui peuvent aussi bien devenir avocats d'affaires que juristes d'entreprise, mais on l'espère demain notaire. On a même un administrateur judiciaire qui nous a rejoint. Donc, offrir toute la palette des carrières juridiques demain pour permettre à ce jeune de choisir la carrière qui lui convient et l'accompagner. Pourquoi? Parce que il se cache, hein, on le disait, 80% de handicap non visible. Donc, comment est-ce qu'on peut le mettre dans les meilleures conditions pour arriver à s'exprimer sur son handicap après une éducation où j'ai appris que les parents voulaient avoir des enfants entre guillemets normaux et les pousser en fait à rentrer dans le cadre social sans faire état de leurs différences. Aujourd'hui, on est quand même dans une situation à l'université, pour prendre l'endroit que je connais puisque je suis professeur associé à l'université de Créteil et je co-dirige un DU avocat conseil fiscal des entreprises avec l'UPEC, la faculté de Créteil, l'école d'avocats de Versailles, et un DU transformation digitale du droit et Legal Tech à Paris 2, donc Panthéon Assas. Donc j'ai quelques centres d'observation qui sont assez intéressants. Et c'est vrai que la capacité à se révéler n'est pas toujours évidente dans cet univers de l'université. Ce serait la même chose en école d'avocat ou en école d'ingénieur. Donc l'idée, ça a été de pouvoir prendre conscience du fait que ces jeunes, en plus, veulent être encouragés, mais pas faire l'objet de discriminations positives, pouvoir être fiers d'être à l'intérieur de l'entreprise ou du cabinet dans lequel ils travaillent, être considérés comme un individu à part entière qui apporte sa contribution à la réalisation des objectifs de l'entreprise. Et donc, c'est tout ce travail, en fait, qui va permettre de mettre en valeur ces jeunes, de leur donner une zone de confiance, de les mentorer, de les accompagner avec des plus jeunes, avec des plus vieux, suivant les situations, et de leur proposer des stages, des expériences professionnelles à partir de la L2. Alors, ça démarre du Duodé, une journée, et vous verrez par la suite pour certains que c'est un bon essai pour découvrir le handicap, et ça va jusqu'au stage de 6 mois qui sont obligatoires dans les écoles d'avocats, mais aussi de plus en plus dans les césures qui sont pratiquées entre M1 et M2 par les étudiants pour s'amariner. Donc ça, c'est le premier axe, arriver à trouver ces jeunes talents et les accompagner et leur donner des occasions de se montrer, et lorsqu'ils sont prêts, de pouvoir parler en public de leur handicap. Deuxième axe, celui de trouver ses stages. Et trouver ses stages, en fait, c'est d'arriver à convaincre des cabinets d'avocats, des directions juridiques. Il faut savoir, dans les études de droit, on n'apprend pas le management. Jusqu'à maintenant, on a eu des populations plutôt intelligentes, faciles à gérer. Les nouvelles générations ont des exigences un petit peu différentes. C'est une activité économique un petit peu traditionnelle, on va dire, qui a eu quelques problèmes de mutation, notamment impacté par le digital, s'est posé beaucoup de questions, attaqué en termes de concurrence sur la manière de faire du droit qui peut être industrialisé sur certains pans du droit. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile pour les avocats d'arriver à comprendre ces différents éléments, parce que tout simplement, ils n'y ont pas été préparés. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est comment est-ce que le handicap peut être très intéressant pour faire évoluer les structures de management que sont les cabinets d'avocats ou les directions juridiques, hein, c'est la même éducation, les mêmes travers. Les entreprises, c'est un petit peu plus facile parce qu'à l'intérieur des entreprises, vous avez des missions handicap très actives, du coup des formations management. Lorsque vous êtes un juriste de 5 ans d'expérience professionnelle, vous devenez plus un manager, un petit peu moins un juriste, même si les DRH ont du mal à s'en convaincre. En tout cas, dans les groupes anglo-américains, c'est le cas. Du coup, c'est vrai que dans les entreprises, on devrait avoir plus de facilité pour être prêt à manager de manière plus performante. C'est vrai que l'expérience nous permet de constater que la masse de travail dans les directions juridiques comme fiscales depuis les 5 dernières années et la stagnation des effectifs rend un petit peu compliqué de combiner production et management, même quand on est accompagné. Dans les cabinets d'avocats, ben là, c'est vrai que jusqu'à maintenant, ce qui prédomine, et c'est normal, c'est le modèle économique, hein, c'est la production des heures. Alors, c'est d'autant plus compliqué qu'avant, les cabinets d'avocats vendaient des heures. Maintenant, ils vendent des forfaits. Et donc, il faut arriver à mettre en face de ces forfaits un niveau de marge et un niveau de production qui soit acceptable, et donc être un peu ingénieux dans sa manière de diriger tout cela. Et c'est vrai que tout élément qui peut remettre en cause le cours normal de votre équilibre économique, équilibre de PME, hein, parce que si vous prenez le 150e cabinet d'avocats français, c'est en gros 25 personnes, hein, donc ce sont des PME, un équilibre assez fragile. Et puis, ce sont des sociétés dans lesquelles les gens sont profession libérale. Donc, vous prenez un cabinet d'avocats comme le mien, hein, chez De Gaulle Florence, nous sommes 200. Sur les 200, vous avez grosso modo 150 avocats et 50 personnels que l'on appelle support, j'aime pas ce terme-là parce qu'ils sont aussi essentiels à notre fonctionnement, puisqu'ils facturent nos clients, ils aident à ce que le recouvrement se fasse dans les meilleures conditions, ils nous aident à être de meilleurs vendeurs de nos prestations, ils sont au marketing, ils sont aussi dans les ressources humaines, ils nous aident aussi justement sur ces questions de handicap, donc ils sont essentiels, mais 50 salariés pour 200 personnes qui sont dans l'organisation, vous voyez que la loi qui oblige aux 6% de masse salariale au-delà des 20 salariés s'applique à nous parce qu'on est le 30e cabinet d'avocats français, mais le 150e dont je vous parlais tout à l'heure n'est pas obligé d'avoir cette posture. Alors, comment est-ce qu'on leur fait comprendre ce qu'est le handicap, hein? Très souvent, les gens pensent au fauteuil. Les cabinets d'avocats sont dans les quartiers quelquefois un petit peu anciens avec des problèmes d'accessibilité. Ça commence par leur expliquer tout simplement que l'accessibilité, c'est pas vraiment le problème. C'est eux, leur capacité à avoir plus de bienveillance, de responsabilité. C'est pas le monde des bisounours. On leur dit que nos jeunes sont performants. C'est pour ça qu'on ne fait pas de discrimination positive et qu'on est exigeant sur le recrutement des jeunes. Il faut qu'il y ait une sorte d'effet waouh. Et entre nous, notre objectif, c'est d'avoir demain des associés en situation de handicap dans ces cabinets pour montrer que cela est possible. Et on montre justement à ces cabinets que cela est possible. On montre ce que cela peut apporter en termes de management, la quiétude qui peut être possible grâce à une personne en situation de handicap, qui est sur un plateau d'open space, par exemple. L'observation, vous le connaissez mieux que moi, permet de constater qu'il y a un certain apaisement des relations lorsque vous avez cette personne en situation de handicap au milieu de vous. C'est la capacité à montrer plus de flexibilité dans notre management. Alors, ce n'est pas toujours possible, mais en tout cas, c'est essayer de l'imaginer et de se mettre à la hauteur des jeunes en situation de handicap, mais avec une certaine subtilité, puisque en bout de course, il faut qu'ils soient aussi fiers que les jeunes, entre guillemets, valides, qui travaillent avec nous, et que finalement, l'un dans l'autre, ils puissent être considérés comme un collaborateur à part entière. Et donc ça, c'est vrai que c'est pour nous un effort à faire au départ, mais qui rejaillit sur l'ensemble du personnel. En fait, c'est aussi une manière de mieux considérer l'ensemble du personnel et de progresser dans son management. Donc deuxième axe, cet accompagnement des cabinets, des directions juridiques pour arriver à être mieux amarinés vis-à-vis du handicap. Et tout simplement, on a peur très souvent de ce qu'on ne connaît pas. C'est quelquefois une rencontre, un duo day, une semaine de stage avec un de nos jeunes. Et jusqu'à maintenant, je touche du bois, mais on a toujours voulu les garder et prolonger leur période de stage. Donc, on ne doit pas être trop mauvais dans notre choix et on découvre des talents exceptionnels. Troisième axe, c'est faire du bruit. Faire du bruit, pourquoi ? Parce que, alors, est-ce que c'est le fantasme, l'idéalisation de cette profession d'avocat ? C'est vrai que la représentation de l'avocat de cour d'assises ou de la stature imposante de notre garde des Sceaux actuel, ancien avocat, tous ces éléments font que on croit peut-être, ou les avocats croient peut-être qu'ils sont des êtres parfaits. Et donc, c'est vrai que le côté être parfait ne serait pas compatible avec le handicap. Donc, c'est peut-être démythifier tout ça, mais surtout faire comprendre que la performance peut être au rendez-vous avec le handicap quand on travaille avec des jeunes autistes, même si droit comme hache est assez frileux, très certainement, sur le handicap psychique. Mais on a en tout cas des jeunes femmes parmi nos jeunes autistes Asperger. C'est vrai que vous avez une performance de travail qui est totalement incroyable au niveau intellectuel et capacité de travail. Vous avez à gérer des sauts d'énergie qui vous obligent à une certaine flexibilité. Mais surtout, vous avez une rigueur à avoir dans vos instructions. Et là, c'est encore plus fort avec les garçons autistes, qui fait que vous avez immédiatement une révélation de vos carences de management, puisque si vous donnez de mauvaises instructions, elles sont appliquées à la lettre, et donc vous avez un travail merdique, mais c'est vraiment de votre faute. Donc ça, c'est comment est-ce qu'on montre tout ça au cabinet et aux directions juridiques? Comment est-ce qu'on leur propose d'essayer? Comment est-ce qu'on met en face le bon profil, hein, très souvent entre la première rencontre et le premier stagiaire qui arrive, c'est cool, 16 mois. Pourquoi ? Parce qu'on veut accompagner les structures qui vont accueillir, on veut raconter notre histoire, la partager avec eux. Très souvent, en fait, on découvre des gens qui ont des personnes en situation de handicap dans leur entourage à cette occasion, qui n'avaient jamais osé en parler. Ça décontracte tout le monde. On parle quelquefois des accidents de vie, hein, qui sont assez nombreux chez les avocats, parce que c'est un métier quand même qui physiquement sollicite pas mal, et on explique que le cancer, ça fait partie des maladies handicapantes et que c'est pas uniquement le fauteuil, enfin voilà, des choses assez faciles, assez classiques mais qui permettent de progresser. Et là, c'est vrai que cette année, on commence à avoir une accélération et des cabinets qui nous appellent, alors qu'avant, on faisait un petit peu la manche quand on a lancé l'association en 2019. L'agitation, troisième élément, c'est faire parler du handicap et le faire connaître. Alors, c'est l'Observatoire du handicap dans la profession d'avocat. On est en train de réaliser la quatrième édition. L'idée, c'est pas de donner mauvaise conscience, hein, c'est simplement d'avoir un baromètre qui permet de voir une progression dans la place du handicap dans la profession d'avocat. C'est la même chose pour les directions juridiques. C'est d'organiser, je vous disais tout à l'heure, des podcasts et comme une hash out qui permettent aux jeunes de s'exprimer, aux employeurs de s'exprimer, de rassurer tout le monde. C'est d'arriver à réunir régulièrement ces employeurs potentiels avec nos jeunes. Et on fait aussi un concours de plaidoirie qui s'appelle Tous en robe, HAN, bien entendu, voilà, la plaidoirie, c'est la profession d'avocat, donc c'est important. Et on organise ce concours entre personnes en situation de handicap et secrétaires de la conférence du stage. À Paris, ce sont les 12 meilleurs orateurs chaque année qui sont désignés par leur pair et qui assurent la défense d'urgence. Et c'est vrai que c'est un moment qui est assez intense et qui, là, va se dérouler pour la première fois à l'Institut des jeunes aveugles cette année, au mois de mars, le 16 mars. Donc, c'est tout un tas de manifestations, d'agitation qui permettent, en fait, que le handicap fasse partie du paysage. Et c'est le quatrième axe, c'est le lobbying, puisqu'on est dans une profession réglementée. Et donc, on est régi par le Conseil national des barreaux qui fédère l'ensemble des barreaux de France. Et chaque barreau est animé et organisé par un bâtonnier. Et c'est vrai qu'on a commencé avec le barreau des Hauts-de-Seine et le bâtonnier Vincent Morel, il y a quelques années, qui m'a offert cette chance de pouvoir démarrer ce qui était un collectif qui s'appelait Droit comme un H, et de l'encourager. Et puis ensuite, le bâtonnier de Paris, le regretté Olivier Cousy, nous a fait confiance, a désigné au sein du Conseil de l'Ordre un représentant dédié au handicap, Barthélémy Lemial, qui a accepté de partager avec nous un plan de travail avec 17 axes. Ils en ont retenu 14. On a lancé, avec leur support, le prix pour récompenser l'initiative remarquable en matière de handicap dans la profession d'avocat. On a travaillé aussi sur les discriminations à l'examen pour rentrer dans les écoles d'avocats. Il faut avoir ce qu'on appelle le CRFPA. Et en fait, c'est comment est-ce qu'on adapte ces épreuves aux jeunes en situation de handicap pour qu'ils soient dans les meilleures conditions pour rejoindre la profession. Pas pour donner l'examen, hein, bien entendu, mais vraiment pour qu'ils puissent composer dans les meilleures conditions. C'est actuellement un combat sur la TIH. Enfin, tout ce qui permet d'arriver à mieux parler du handicap dans les barreaux de France, qui permet de prendre en compte au niveau du Conseil national des barreaux la situation de handicap pour certains confrères, avec une limite, c'est qu'en France, on n'a pas le droit de faire de statistiques, donc on ne connaît pas du tout la population d'avocats en situation de handicap. C'est un petit peu compliqué, du coup, pour permettre à nos jeunes de mieux connaître les confrères qui sont atteints d'un handicap non visible. Et je trouve ça dommage parce que ça permettrait d'arriver à peut-être aller plus vite, à donner plus de transparence, à donner plus de spontanéité. Et ça, c'est un des combats que l'on va mener et je suis sûr que le bâtonnier de Paris nous aidera très prochainement.
En tout cas, ce que vous faites, toutes ces missions et toutes ces actions très concrètes permettent évidemment de faire parler de ce sujet-là et donc de sensibiliser pour que justement le handicap ne soit pas un tabou, le handicap ne soit pas réduit, comme tu le disais très justement, à un fauteuil roulant et que le handicap finalement devienne une valeur ajoutée dans les cabinets, comme ça doit être le cas dans n'importe quelle entreprise. Pour terminer, parce que c'est un rituel sur ce podcast, j'aimerais que tu partages avec nos auditrices et nos auditeurs un conseil que tu pourrais leur donner pour passer à l'action sur ces sujets-là. Parfois, pour beaucoup, ça paraît trop compliqué, ça paraît une montagne, alors qu'on se rend compte que souvent, c'est du bon sens, c'est des petites actions au jour le jour qui font transformer positivement les organisations. Quel conseil tu donnerais ?
Je dirais soyez simple et soyez naturel. Alors c'est vrai qu'il faut une ouverture d'esprit, mais peut-être le plus compliqué, c'est la première fois où on est confronté. C'est vrai que moi, je n'avais pas constaté que Mathieu Juglard, donc, qui est le président de l'association, qui est ancien secrétaire de la conférence et non-voyant de naissance, j'ai travaillé avec lui, je n'ai jamais constaté qu'il était non-voyant, parce que pour moi, ça fait partie de sa vie et ça n'entrave en rien sa performance. Et voilà, c'est peut-être un petit peu une posture que l'on doit avoir, d'ouverture vis-à-vis des autres. Donc, c'est un bon stress test sur votre posture. Il y a des gens pour lesquels c'est naturel, il y a des gens, c'est un petit peu plus compliqué, mais l'effort en vaut la chandelle parce que c'est pas uniquement la situation de handicap des personnes qui sont en face de vous, c'est en fait votre manière de réagir et d'interagir avec la communauté. Et c'est un petit peu dommage parce que notre vie est trop courte de pas trouver un maximum d'occasions d'interagir avec des gens différents de nous qui nous font progresser.
Merci beaucoup pour ces mots, Stéphane. Bravo pour tout ce que tu fais, tout ce que vous faites, toutes et tous dans l'association pour faire avancer l'inclusion et la diversité dans vos métiers. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Adrien, pour votre accueil. Merci pour ce prix. Et je regrette qu'on ne puisse pas à nouveau concourir parce que c'était vraiment un moment très, très, très agréable. Et je souhaite à toutes les associations et toutes les entreprises et cabinets d'avocats de présenter leur candidature pour ce moment. Et peut-être qu'on accompagnera un de nos cabinets partenaires demain.
Écoute, on vous le souhaite et sache que en tant que lauréat 2022, vous faites droit comme un H, partie désormais à vie, si je puis m'exprimer ainsi, de la grande communauté du Grand Prix Diversité et Inclusion. Donc on restera en contact évidemment avec grand plaisir. Merci encore Stéphane.
Merci Adrien, à très bientôt, au revoir.
Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à découvrir tous les autres, y compris ceux de la saison 1, sur notre site internet www.afldiversity.com et suivez-nous sur les réseaux, en particulier la page AFL Diversity sur LinkedIn pour suivre toutes nos actus. J'espère que cet épisode vous aura inspiré, donné des idées, des clés pour faire avancer le sujet en entreprise, car c'est bien tous ensemble que nous pouvons faire bouger les lignes afin de rendre la société plus inclusive. À très bientôt.